Il est 8h.
En Marche, qui a la stratégie du coucou, qui essaye de prendre les postes dans des majorités qui ne sont pas les siennes. Ça n'a aucune cohérence politique.
La deuxième salve de la stratégie d'Emmanuel Macron pour déstabiliser les Républicains. Après la région Sud, c'est dans les Hauts-de-France que le président attaque. Il envoie Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti en mission pour affaiblir Xavier Bertrand. Les élections de juin comme un premier tour de la présidentielle. Pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy appelle à une vision ambitieuse pour la France. Il alerte contre le risque d'un avenir sombre tout en se gardant de prendre position. Et puis, chez nos voisins, outre-Manche, le Royaume restera-t-il uni? L'Écosse, pro-européenne, mais aussi riche en pétrole et en poissons, vote aujourd'hui et imagine déjà un nouveau référendum d'indépendance. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La haine anti-policier est aussi et surtout une haine anti-France. Comment alors créer encore du commun quand le délitement guette? Mon invité dans la réflexion et dans l'action sur les terrains extérieurs, l'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy, rendez-vous à 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. C'est le deuxième étage d'une fusée politique dont on ignore jusqu'où elle ira. Emmanuel Macron compte sur son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour mener le combat au régional dans les Hauts-de-France, sur la liste En Marche ou peut-être tout en haut de celle-ci. Et ce, dans un territoire que brigue aussi Xavier Bertrand, futur adversaire du chef de l'État en 2022. Et dans un contexte où la droite se remet à peine de la déflagration en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le rapprochement de Renaud Muselier et d'En Marche, une affaire d'ailleurs pas encore réglée.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour Mathieu.
Quel est l'objectif de cet atterrissage politique d'Éric Dupond-Moretti?
En fait, l'opération a été lancée directement par Emmanuel Macron et donc c'est à l'occasion d'une réunion politique lundi à l'Élysée que les derniers détails de la manœuvre ont été réglés. Autour de la table, une poignée de ministres et plusieurs conseillers politiques. L'entourage d'Emmanuel Macron ne manque pas de mots louangeurs pour ce ministre de la Justice marqué à gauche qui, après avoir quitté la robe d'avocat, avait très envie de se construire un véritable parcours politique et ça passe forcément par la légitimité des urnes. Cette candidature arrange bien la Macronie qui n'arrive pas à faire émerger Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État à la réforme des retraites, tête de liste jusqu'à aujourd'hui du parti présidentiel dans les Hauts-de-France. En clair, le chef de l'État a bien l'intention de voir le ministre de la Justice prendre la tête de liste à sa place avec un double objectif, combattre de toutes ses forces le Rassemblement National, ce parti qu'il a toujours détesté, et surtout affaiblir la candidature de Xavier Bertrand qui a fait de l'élection régionale un préalable à sa candidature pour la présidentielle et qui d'ailleurs n'y est pas allé de main morte ce matin dans le Figaro en qualifiant Emmanuel Macron de cynique et de destructeur.
Vous restez avec nous, Louis Dragnel. On parle de cette région, les Hauts-de-France, mais allons-y.
Lionel Gougelot, bonjour.
Bonjour.
Oui, puisqu'il y a donc un autre poids lourd du gouvernement dans la bataille électorale des Hauts-de-France. Gérald Darmanin, candidat, mais au départemental. Alors là aussi, Lionel, le ministre de l'Intérieur vient pour bousculer les équilibres politiques.
Oui, imaginez un Gérald Darmanin presque assuré de son élection dans son canton de Tourcoing, qui devrait, en toute logique, intégrer le groupe politique actuellement majoritaire au département, qui rassemble des élus LR, UDI et divers droites, mais qui a déjà prévenu sa famille d'origine qu'il soutiendrait par ailleurs le candidat République En Marche au régional. Une sorte de « en même temps » à la sauce Darmanin qui fait, vous l'imaginez, hurler Sébastien Huyghe, le patron de LR dans le Nord.
Là, on se retrouve dans la situation de En Marche qui a la stratégie du coucou, c'est-à-dire qui essaye de prendre les postes dans des majorités qui ne sont pas les siennes. Ça n'a aucune cohérence politique et c'est aussi ce qui écœure nos concitoyens de la politique.
Une sorte de « en même temps » donc dénoncé. Officiellement, Gérald Darmanin ne vise pas la présidence du département. Ambition plutôt limitée donc. Alors, Jean-René Le Serre, l'actuel président de droite, ex-LR, ouvre grand les bras à celui qui a rallié Emmanuel Macron.
Avoir demain comme conseiller départemental de base le ministre de l'Intérieur, c'est formidable. Donc bienvenue Gérald Darmanin, puisque vous savez, si Emmanuel Macron a été élu président de la République, c'est bien parce qu'il y a des gens de LR et de l'UDI et des non-inscrits qui ont voté pour lui. Donc moi je trouve ça plutôt heureux et on est ravis d'accueillir notre ami Gérald.
Et pour adoucir la pilule, il y a aussi ceux qui vous disent qu'il faut penser au coup d'après, c'est-à-dire l'hypothèse où le Rassemblement national, allez savoir, serait vraiment trop menaçant entre les deux tours des régionales. Eh bien, revenu dans ses terres, Darmanin serait le mieux à même de favoriser un rapprochement entre La République En Marche et son ami Xavier Bertrand.
Lionel Gougelot, on entend que tout n'est pas réglé au sein même de LR. Je reviens à vous, Louis Dragnel. Alors si on comprend bien, Emmanuel Macron envoie deux têtes d'affiche dans les Hauts-de-France pour combattre à la fois Xavier Bertrand et le RN Sébastien Chenu, mais il y a là deux configurations bien différentes.
Oui, absolument. Darmanin et Dupond-Moretti ne jouent pas exactement la même partition dans cette campagne. Pour Dupond-Moretti, l'enjeu c'est d'abord de trouver une légitimité électorale en se battant à main nue avec le Rassemblement National, mais surtout d'aller mordre les mollets de Xavier Bertrand avec deux objectifs politiques fixés par Emmanuel Macron. Au premier tour, éviter un score triomphal donc pour Xavier Bertrand, et au deuxième tour, montrer que Xavier Bertrand tout seul ne peut pas battre Marine Le Pen. En clair, qu'Emmanuel Macron est au moins aussi bien placé que Xavier Bertrand pour faire barrage à Marine Le Pen. Pour Gérald Darmanin, il sera très compliqué pour lui de dire du mal de Xavier Bertrand. Tous les deux sont très proches. Emmanuel Macron veut en fait se servir de son image pour montrer que La République En Marche peut remporter des victoires locales. La finalité, en tout cas, dans tous les deux cas, c'est vraiment d'affaiblir Xavier Bertrand.
Merci Louis Dragnel et merci à vous Lionel Gougelot, notre correspondant dans les Hauts-de-France. On voit que tout cela, évidemment, est directement lié à l'élection reine, la présidentielle.
Dont le second tour devrait être dans tout juste un an. Voilà qu'un ancien président parle ce matin en longueur dans la presse. C'est Nicolas Sarkozy, une interview au magazine Le Point, où il aborde de nombreux sujets qui fâchent Napoléon, la repentance, le racisme, les angoisses des Français, puis le génocide au Rwanda, très largement.
Et c'est Mickaël Darmon qui nous rejoint. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Chef du service politique d'Europe 1. Pourquoi s'exprimer sur ces thèmes?
D'abord, le titre aurait pu être « Les sujets qui passionnent Nicolas Sarkozy ». L'ancien président plonge dans le passé pour expliquer le présent, comme il a toujours fait. Nicolas Sarkozy a toujours été attiré par la dimension tragique de l'histoire, les enjeux de notre pays face au déclin de l'Occident, les pulsions identitaires, le populisme. Il continue d'être animé par ces sujets, même s'il est aujourd'hui devenu un homme d'affaires. Dans Le Point, il parle tout d'abord très longuement du Rwanda, un pays où il se rend souvent avec sa famille. Il se dit touché par le destin de ce pays meurtri par un génocide. Il salue la remise du rapport de l'historien Vincent Duclert à Emmanuel Macron sur les responsabilités françaises. Il rappelle d'ailleurs qu'il a toujours été le premier et à ce jour le seul chef d'État français à se rendre au Rwanda, donc il y a 11 ans. Sur place, il avait déjà dénoncé des aveuglements et des erreurs politiques. Beaucoup d'autres sujets également abordés par l'ancien président. L'angoisse des Français, la crise d'autorité générale, la crise de la transmission. Il plonge dans le passé pour parler d'aujourd'hui.
Et alors, à l'orée de cette campagne présidentielle, Mickaël, Nicolas Sarkozy ne prend pas position, mais sonne l'alarme en quelque sorte.
Alors vous savez, c'est celui qui a inventé un mandat, Nicolas Sarkozy. Celui d'ancien président en exercice. Il se dit très inquiet. Il appelle ceux qui sont en charge du pays qui, je cite, participent dignement au débat démocratique. Ils veulent qu'ils proposent une vision ambitieuse pour la France. Faute de quoi, selon lui, le pays pourrait connaître des heures sombres. Nicolas Sarkozy marque à sa manière l'entrée en campagne présidentielle et s'il n'exerce plus d'influence sur le pouvoir, il entretient son pouvoir d'influence.
Mickaël Darmon, en direct ce matin. Merci Mickaël. Je garde évidemment cette formule, ancien président en exercice.
Et voilà ce qui sera de toute évidence et qui est déjà un thème de la campagne présidentielle. La sécurité, mise d'ailleurs pratiquement au même niveau que l'emploi et le pouvoir d'achat dans les premières préoccupations de l'électorat en vue de 2022, selon la société de sondage Elab. Hier, dans le centre d'Avignon, à l'intérieur des remparts, un policier de 36 ans, père de deux enfants, a été tué par balle lors d'un contrôle antidrogue. Gérald Darmanin, dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur, aussitôt sur place.
La lutte contre les trafics de stupéfiants s'apparente à une guerre. Cette guerre, nous la menons grâce à des soldats. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros pour nous protéger.
On retrouve Stéphane Frangy en direct d'Avignon. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Forte présence policière encore ce matin autour de vous.
Oui, tout à fait. Le centre-ville est ratissé derrière les remparts. Eh bien, la présence policière reste forte. Une compagnie de CRS est même arrivée en renfort cette nuit. La traque ne faiblit pas, comme on a pu le constater avec cette colonne de policiers qu'on a vu pénétrer dans différents halls d'immeubles. L'un d'eux ouvrant le chemin à ses collègues avec un bouclier pare-balles. Il y a une extrême prudence, de la détermination du côté des forces de l'ordre et qui sont particulièrement marquées par ce drame, comme en témoigne William Maury du syndicat Alliance.
Pour quelques barrettes de stupéfiants, notre collègue, il est tombé. Vous avez une mère de famille, deux enfants qui ne vont pas voir papa rentrer. Et elle expliquait à deux gamins en bas âge qu'ils ne vont pas revoir leur père. Parce qu'un mec sur un point de deal, pour gagner 100 euros, il a battu un policier de sang-froid. Bien sûr qu'il y a de la colère. Mais on en a marre. Voilà, on enterre les nôtres en permanence. On n'est pas là pour se faire tirer comme des lapins, pour décéder suite à un simple contrôle. Parce que c'est un simple contrôle.
Voilà, quelques bougies ont été déposées ce matin là où est tombé le brigadier Eric et l'enquête bat son plein. Le procureur de la République devrait faire un premier point public de l'enquête cet après-midi.
Vous nous en parlerez tout à l'heure. Merci Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 avec nous en direct d'Avignon.
C'est une information Europe 1 ce matin. Une aide de 500 euros par mois pour les moins de 25 ans sans emploi ni formation va être annoncée par Emmanuel Macron.
Oui, pour en bénéficier, il faudra obligatoirement être accompagné vers la recherche d'un emploi. Les détails de cette annonce à venir sont déjà sur Europe 1.fr.
8h10, après le Brexit et après le Covid aussi qui l'a ébranlé, le Royaume-Uni est-il au bord de la fracturation?
Ces jours d'élections locales chez nos voisins, 5000 sièges à renouveler dans 140 assemblées, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'Écosse, où l'on assistera peut-être à l'aboutissement de la stratégie de la Première ministre, Nicola Sturgeon. Elle est indépendantiste, et si elle obtient la majorité absolue au Parlement écossais, cela ouvrirait la voie à un deuxième référendum d'indépendance.
Bonjour Théo Manval.
Bonjour.
Officiellement, Boris Johnson ne veut pas en entendre parler. C'était totalement inenvisageable il y a encore 2 ans. Mais les choses sont en train de changer. Comment est-ce qu'elle y est parvenue ?
Eh bien, elle s'est appuyée sur 2 événements majeurs. D'abord, le raz-de-marée aux dernières élections législatives britanniques en 2019, où son parti a remporté 80% des sièges alloués à l'Écosse. Et puis l'entrée en vigueur du Brexit début 2020. Les Écossais n'en voulaient pas. Ça a encore fait s'envoler les scores des indépendantistes dans les sondages, autour de 50% désormais, quand le oui à l'indépendance n'avait obtenu que 45% au référendum de 2014. Alors certes, ce référendum, il était censé valoir pour une génération. C'est ce que martèle encore Boris Johnson. Mais l'argument pourra difficilement tenir en cas de nouveau succès du Scottish National Party aujourd'hui, estime Sir John Curtis, politologue à l'Université de Glasgow.
Si le SNP décroche la majorité à lui tout seul, il rééditera son succès d'il y a 10 ans où le Premier ministre David Cameron avait reconnu que ça leur donnait le droit moral à un référendum. Comme nous n'avons pas de constitution écrite, nous nous appuyons sur les précédents. Et là, le précédent est clair. Donc il y a maintenant des gens au sein même du parti de Boris Johnson qui pensent qu'il ne pourra plus dire non.
Alors, le Brexit, vous le disiez Théo, a joué un rôle clé. 6 Écossais sur 10 voulaient rester dans l'Union Européenne, mais le Covid aussi a dopé les indépendantistes.
Ah oui, la Première Ministre Sturgeon a rassuré les Écossais dans sa gestion en comparaison avec Boris Johnson et achevé de convaincre ceux qu'on appelle désormais les No to Yes, ces gens autrefois opposés à l'indépendance mais qui ont changé d'avis récemment.
Et qu'a rencontré à Édimbourg notre envoyé spécial Anaïs Cordoba.
En plein cœur d'Édimbourg, Michael distribue les derniers tracts à ses équipes. Il dirige la campagne du SNP dans une circonscription clé, actuellement aux mains des conservateurs. Aujourd'hui indépendantiste convaincu, Michael avait pourtant voté non à l'indépendance en 2014. C'est le Brexit qui l'a fait changer d'avis.
On a perdu beaucoup de choses avec le Brexit. Avant, on n'avait qu'à montrer notre passeport pour voyager en Europe. Maintenant, on a besoin de visa. On a perdu notre lien de parenté avec nos voisins européens. Nous ne sommes pas différents et je veux partager une identité avec eux.
Originaires d'Édimbourg, Everett et David sont aussi passés du non au oui sur la question de l'indépendance. L'Écosse serait mieux gouvernée par un pouvoir local que sous le joug de Londres, explique-t-il. Et ils prennent en exemple la gestion de la pandémie par la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon.
Elle a mieux géré la pandémie que le gouvernement à Londres. Même si le confinement n'était pas populaire ici, elle n'en a pas tenu compte au moment d'imposer un confinement et des restrictions plus strictes. La communication de ce gouvernement et de Nicola Sturgeon était beaucoup plus claire. Donc les restrictions étaient mieux comprises et mieux suivies.
Et comme eux, 70% des Écossais estiment que Nicola Sturgeon a bien géré la pandémie. Édimbourg, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Alors il y a quand même quelque chose qui vient compliquer cette fin de campagne. Les indépendantistes se sont déchirés dans les toutes dernières semaines avec le lancement d'un parti concurrent. Résultat, la dynamique a fléchi dans les sondages.
Et puis se pose, Théo, la question de la survie de l'Écosse en cas d'indépendance. Est-ce qu'elle peut vraiment s'en sortir toute seule ?
C'est ce qui inquiète toujours de nombreux Écossais, pour qui la priorité reste avant tout la survie économique. Or, le coût de cette indépendance pour le pays a été chiffré à 3 fois le coût du Brexit par une récente étude. Nicola Sturgeon tente de calmer cette peur en promettant que si référendum il y a, ce ne sera pas avant que le pays soit remis de la crise liée à la pandémie.
Dossier signé Théo Manval avec Anaïs Cordoba à Édimbourg pour Europe 1. On attend les résultats ce week-end au plus tôt pour ces élections parlementaires en Écosse. Et puis encore un événement dans le spatial et c'est à nouveau SpaceX qui fait l'actualité avec sa fusée Starship qui avait fait 4 tentatives et autant d'explosions, mais cette fois-ci...
Starbase flight control has confirmed, as you can see on the live video, we are down, the Starship has landed.
Starship is landed, ça veut dire que cette fois-ci la fusée s'est posée, atterrissage réussi. Starship, fusée de 120 mètres de haut, censée emmener un jour des humains sur Mars.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h. François qui est déjà sur la liste d'attente pour partir vers la planète rouge. Il est 8h15 sur Europe 1 dans un instant. Sonia Mabrouk et son invité, le philosophe Bernard-Henri Lévy. À tout de suite.